sommes vendredi 7 mai 2021. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalangou au micro Nefissa Adam Sirfo. Moussa Ksara, directeur de publication du journal L'Événement, condamné ce matin par le tribunal de l'arrondissement Niamey 3, a versé une amende de 200 000 francs CFA et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts à un Nigérien vivant en Belgique, à suivre l'avocat de Moussa Ksara dans ce journal. Mouvement d'humeur ce matin des étudiants de l'université de Niamey. Ils étaient sortis sur le pont Kennedy en brûlant des pneus pour revendiquer de meilleures conditions de vie et d'études. Quelle appréciation peut-on faire de la participation féminine aux dernières élections générales organisées au Niger? Réponse avec l'ONG FAD dans le magazine de ce soir. Le délibéré de l'affaire qui oppose Moussa Ksara, directeur de publication du journal L'Événement, à Abdraman Monzo, un citoyen nigérien résident à Bruxelles, a été vidé ce matin au tribunal de l'arrondissement Niamey 3. Moussa Ksara est condamné à payer une amende de 200 000 francs CFA et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts aux plaignants. Selon Maître Ahmed Maman, l'un des avocats de Moussa Ksara, cette décision ne rend pas service au droit. Ils ont décidé de faire appel. Il est au micro de Ternan Foudey Ahmed.
Ce matin, notre grande surprise, parce qu'on croyait que notre client allait être déclaré non coupable. Mais malheureusement, quand le tribunal vidait sa saisine, a reconnu la culpabilité de notre client et il l'a déclaré coupable pour ses faits, et avec une peine d'amende de 200 000 francs CFA, également une condamnation en dommages et intérêts au profit du plaignant d'un montant de 1 million de francs CFA.
Quelle serait maintenant la suite de la procédure?
Bon, comme vous savez, cette décision, pour nous, elle ne rend pas service au droit. Et également, pour ces faits, nous sommes tenus d'interjeter appel contre cette décision pour qu'on puisse en débattre devant la cour d'appel et pour que le droit soit dit.
En bref, hier, les députés nigériens en session ont procédé à l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Ainsi, à l'issue du vote, 4 parlementaires sont élus députés-juges, rapporte le quotidien nigérien Le Sahel de ce jour. Il s'agit de Mme Ali Mariam El Hadj Ibrahim et Soule Oumarou du groupe du PNDS Tareya, Saleh Jibrilou du groupe parlementaire Le Rassemblement des démocrates et Omar Hamidou Tchana de l'Union pour la République. La Haute Cour de justice est composée de 3 magistrats, dont un désigné par la Cour de cassation, un par la Cour des comptes et un par le Conseil d'État, auxquels se joindront les 4 députés élus, précise la même source. Les étudiants de l'université de Niamey sont sortis ce matin pour brûler des pneus sur le premier pont au pont Kennedy qui relie les deux rives du fleuve Niger. Selon Hassan Soule Kadri, secrétaire chargé à la presse du syndicat des étudiants, ceux-ci vivent des moments difficiles depuis l'instauration du compte unique du Trésor. Il est au micro de Farid Bourema.
Le comité exécutif de l'UNUL, avec le soutien de sa base, a décidé de sortir ce matin pour effectivement manifester ses mécontentements par rapport à l'ensemble des difficultés par lesquelles et dans lesquelles nous vivons ici à l'université, tant du point de vue académique que du point de vue social, que je dois vous avouer, et cela d'ailleurs sans humilité, que ici à l'université à Oumoumoune de Niamey, nous sommes en train de vivre les moments les plus catastrophiques de notre histoire. Parce qu'il faut le rappeler, à l'heure où nous vous parlons, depuis le soir de compte unique là au Trésor, l'université ne fonctionne pas. Quand les étudiants sont dans leurs droits, en matière de bourse, en matière d'aide sociale, en matière de dortoir, en matière de toilettes, en matière de tout ce que l'on peut exiger, ne serait-ce que pour le minimum de vie, pourquoi nous aurons encore à demander quelque chose?
Suite au Conseil des ministres du 29 avril, l'état d'urgence dans les départements de Baleyara, Kolo, région de Tillabéri, a été prolongé pour une période de 3 mois pour raison de sécurité. Comment les populations de ces localités apprécient-elles cette décision du gouvernement? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par notre correspondant Cédia Abdouindetan à Baleyara.
L'état d'urgence n'est pas un problème. Toute action qui peut préserver notre vie, nous sommes pour. Il faut doter ces militaires avec des matériels adéquats, procéder à de nouveaux recrutements pour renforcer l'effectif, pour que les militaires puissent pourchasser et mettre hors d'état de nuire ces bandits sans état d'âme qui terrorisent les populations.
Malgré la loi sur l'interdiction de la circulation des motos, c'est sur ça qu'ils viennent perpétrer leurs crimes. Rien n'a changé, la situation a juste empiré. L'appel qu'on lance à l'État, c'est d'alléger les choses, parce que le travail qu'on peut faire avec une moto, si on doit prendre une voiture pour ça, le prix ne sera pas le même.
Nous à Balayara, si les motos ne circulent pas, c'est un grand recul pour la commune. C'est vrai, c'est pour la paix. Avec cette mesure, la situation devrait s'améliorer. Mais on constate, pendant que les motos sont interdites de ce côté, de l'autre côté, les motos circulent. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
En bref, dans un tableau de bord humanitaire établi entre janvier et mars 2021 par le Bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad, Niamey, et rendu public mercredi, les régions de Tillabéri et Tawa connaissent une recrudescence de violence poussant près de 15 000 personnes en situation de déplacement forcé à l'intérieur des régions, soit une augmentation de 5 % par rapport au 31 décembre 2020. Selon le même tableau de bord, dans plusieurs régions, les niveaux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans sont supérieurs au seuil d'urgence et on observe une augmentation de 33 % du nombre de personnes en insécurité alimentaire par rapport à novembre 2020. Le groupe nucléaire français Orano, qui exploite l'uranium à Arlit depuis plus de 40 ans, a fermé la mine de la Kominak le 31 mars dernier. Comment cette ville minière du nord Niger va-t-elle survivre après le départ des agents de la Kominak vers d'autres régions du Niger? Le maire d'Arlit explique que sa municipalité a élaboré divers projets qui vont fixer ces personnes. Abdrahman Maouli est au micro de Ousmane Oumarou.
La commune d'Arlit a planifié plusieurs types de projets qui, par leur concrétisation, Inch'Allah, le futur est porteur de bonheur. Orano a appuyé les études de tous les projets. La mise en place de ces projets plaise à Dieu. Les populations de notre commune, tout comme celles de la zone d'Agadez, voire même celles des autres régions du pays, vont profiter des avantages de ces projets. L'exploitation est arrêtée, mais toutes les activités socio-économiques vont continuer. La ville d'Akokan va continuer son train de vie, car les populations vont rester et nous allons tout mettre en œuvre pour la continuité du bien-être de cette population. Vous savez, une telle situation à laquelle les populations ne sont pas habituées, bien sûr, quand ça arrive, les gens s'effraient. Au niveau du conseil municipal, nous avons établi des pistes de solutions. Toutefois, qu'elles sont appliquées, les conditions de vie des populations ne seront pas impactées. La Kominak va nous manquer, mais la population restera toujours là.
Au Conseil des ministres d'hier, le gouvernement nigérien a adopté le projet de décret portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat, rapporte le communiqué du Conseil du 6 mai. Selon ce communiqué, le 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont le dénombrement est prévu en décembre 2022, permettra d'évaluer les changements intervenus depuis le dernier réalisé en 2012. Il permettra également de déterminer les besoins des populations en matière de scolarisation, de santé et des autres services objets de politique publique. Selon un article de Jeune Afrique publié le 2 mai 2021, la France a entamé le processus de transfert de 5 milliards d'euros vers les comptes de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Ce processus s'inscrit dans le cadre de la réforme du franc CFA entamée en décembre 2019, explique l'économiste Soli Abdoulaye, interrogé par Mokhtar Hamadou.
La France s'est engagée à changer d'abord le nom du franc CFA en écho. Elle s'est engagée à se retirer des instances décisionnelles de la Banque centrale, la BCAO. Ensuite, elle s'est engagée aussi à verser ou à restituer l'ensemble des réserves que nous avons dans le trésor français. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, nous avons appris que la France a amorcé le processus de restitution de ces réserves que nous avons et qu'elle a décidé de mettre à la disposition de la BCAO 5 milliards d'euros. Seulement, c'est insignifiant. 5 milliards d'euros, quand vous multipliez par 600, ça fait 3 000 milliards de francs CFA pour les 8 pays de l'UMOA. Or, vous savez très bien que la création de la monnaie franc CFA, elle a été dès le début convertie sur la base de nos réserves. Quand on parle de réserves, il faut entendre le montant de 80% de nos exportations.
Le magazine de ce journal, à la dernière présidentielle organisée au Niger en janvier 2021, aucune candidature féminine n'a été enregistrée. Cependant, environ 35% des candidatures féminines aux élections locales et législatives ont été relevées par l'ONG Femmes Action et Développement FAD. Les femmes sont également sorties massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens le jour des votes, se réjouit la chargée des programmes de l'ONG FAD. Selon Mariam Mahmoudou Djibo, cela s'explique par la prise de conscience de la femme pour les questions politiques. On l'écoute.
Cette année, il y a eu énormément de femmes qui sont sorties pour aller exprimer leur choix à travers les bureaux de vote. On a eu à mener une mission d'observation et dans les bureaux de vote que nous avons visités, à peu près 55% des personnes présentes dans les files d'attente étaient des femmes pour exercer leur devoir citoyen. Mais aussi, les femmes sont sorties massivement se porter candidates car il y a eu plus de 35% de femmes qui ont été candidates, notamment aux élections locales et législatives. On comprend de là que les femmes ont pris conscience de leur droit de participation à la gouvernance et qu'elles ne comptent pas s'asseoir pour le recevoir sur un plateau doré. Elles sont sorties pour réclamer cela et nous en sommes fiers.
Même au niveau de l'hémicycle, on constate qu'il y a plus de 40 femmes et le quota est largement dépassé. Qu'est-ce qui explique cette avance?
Le quota est dépassé en effet car nous nous sommes retrouvés avec 28% de femmes par rapport à 25% prévu par le quota. Pour expliquer cela, je dirais que c'est dû aux contributions des uns et des autres. Même nous, au niveau de FAD, on a eu à travailler avec plus de 2000 femmes, on les a accompagnées par tous les moyens que nous pouvions. Donc nous pensons que cela aussi a énormément contribué. Au sein du gouvernement, malheureusement, à ce niveau, nous avons été déçus car au lieu de 30% prévu par la loi sur le quota, on se retrouve avec la moitié, soit 15%. Donc nous sommes présentement dans le processus de plaidoyer avec les autorités en espérant que des mesures correctives seront prises car le Niger a déjà enregistré une avancée. Il n'est pas normal qu'on puisse régresser à ce point. Principalement, ceux qui font la participation politique des femmes, je crois que c'est la pauvreté, le manque de moyens financiers. Au-delà des pesanteurs sociales, c'est parce que les femmes manquent des moyens pour s'affirmer et pour imposer leur point de vue. Donc pour pallier à cela, c'est vraiment de renforcer le pouvoir économique de la femme nigérienne, de façon générale, pas que celles qui sont en politique. Il faut que toutes les femmes nigériennes soient autonomes et de là, elles pourront penser à occuper d'autres scènes telles que la politique. Ces femmes élues, nous espérons qu'elles vont relever le défi, qu'elles seront à la hauteur de la tâche. À partir des places qu'elles occupent, elles vont faire le lobby interne pour qu'il y ait davantage de femmes, pour que d'autres femmes les rejoignent. Également, nous espérons des femmes qui sont à l'Assemblée nationale, vraiment l'adoption de lois en faveur de la femme et de la jeune fille nigérienne, notamment en ce qui concerne l'éducation. Nous espérons vraiment, nous avons confiance en ces femmes et nous pensons qu'elles ne vont pas nous décevoir.
Ici prend fin ce journal. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, le journal en tamashek. Puis suivront les journaux en langue fulfulde, Hausa et Zerma. Et à partir de 18h15, le forum de la presse présenté par Michel Dégé. Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur, apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.